Bonjour Arnaud.
Bonjour Stanislas.
Eh bien, nous revoici sur la plateforme MVA. On va parler pendant 6 modules d'un nouveau produit. Un produit qui s'appelle Microsoft Advanced Threat Analytics. Produit dédié à la sécurité. Donc, ça nous fait d'autant plus plaisir, effectivement, de retourner sur des produits un peu de sécurité. D'autant que ça fait déjà quelques années que Microsoft ne produit plus grand-chose en termes de produits de sécurité. Donc, du coup, c'est assez sympa.
Yes. Alors, quelques menaces que tu vas nous rappeler peut-être sur ce qui plane à l'heure actuelle sur les systèmes d'information, les choses qu'on voit dans un certain nombre d'environnements chez nos clients.
Effectivement, ce sera le premier module. Ensuite, on enchaînera par une introduction de ce que c'est techniquement comme solution que Advanced Threat Analytics. Ensuite, on rentrera dans le gras du sujet, c'est-à-dire qu'on ira voir comment s'installe ATA, comment on va le déployer, sous quel mode de topologie, comment il fonctionne déjà également. Et puis après, on fera le déroulé en fait, de l'installation.
Eh bien, ça me paraît un bon programme, tout ça, pour les quelques prochaines minutes qui nous occupent.
Exactement. Et bien, donc, du coup, on va commencer sur les menaces de cybersécurité actuelles, qu'on pourrait résumer par...
Stan, la France a peur.
La France a peur, exactement. Le monde a peur, même, on pourrait dire. Bon, plus sérieusement, on parle de menaces avancées, ou APT, Advanced Persistent Threat, quand on parle de systèmes d'information qui ont été compromis, c'est-à-dire qui ont reçu l'utilisation d'un exploit... on va dire de départ, qui a permis après à une personne externe, malveillante, ou une organisation externe, ou des cyber-espions, entre guillemets, de venir mettre en fait du code et prendre le contrôle en fait d'un système d'information.
Alors on appelle ça des menaces persistantes.
Parce qu'une fois qu'on a le pied à l'intérieur, on garde, le but est de garder une présence, certes furtive, mais de garder une présence dans le système d'information qui est espionné. Et alors persistante parce que certaines attaques comme ça, ont duré plusieurs années, peut-être même qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore en cours d'exécution à l'heure actuelle.
Ouais, alors on a différents chiffres qui expliquent que effectivement ces attaques elles sont détectées de manière assez peu efficace par les méthodes traditionnelles. Donc il y a différents chiffres, les groupes produits chez nous on dit 200 jours, c'est le nombre moyen de jours qu'on voit avant que la menace soit détectée.
Je crois que le Gartner dit moins.
Gartner dit 86 jours récemment, il a énoncé ça comme chiffre. En tous les cas, nous ce qu'on a vu chez pas mal de clients, c'est qu'effectivement ça prend beaucoup beaucoup de temps et c'est souvent par hasard que c'est découvert dans les systèmes d'information.
Exactement, c'est genre un serveur qui se met à planter, du coup on appelle le support de l'éditeur arrive et puis ils font tiens c'est bizarre, il doit pas y avoir ça.
C'est bizarre tous ces drivers.
Et puis en fait tu vois, c'est vraiment le principe du fil et puis de la plotte, tu tires, puis tu aperçois, tu fais « Oh non, il y a ça aussi !» Et puis on s'aperçoit finalement que tout le système est vérolé, qu'il y a des backdoors qui ont été utilisés, ou qu'il y a des choses qui sont envoyées sur Internet. Puis là, on commence à regarder les logs, on s'aperçoit qu'il y a des gigas qui ont circulé, ils sont partis vers des pays exotiques, plutôt à l'Est. À l'Ouest aussi, ils sont pareils en fait. Donc l'idée, c'est ça, c'est un système est compromis, de l'information après véhiculée à l'extérieur. La plupart du temps, c'est quand même pour l'utilisation de données pour de l'espionnage industriel, faut appeler un chat un chat. Alors espionnage industriel, mais c'est pas qu'industriel, ça peut être étatique
aussi,
également, effectivement, par rapport à des ministères ou autres. Donc c'est absolument pas un épiphénomène, c'est une chose qu'on voit couramment depuis des années. Les raisons, elles sont multiples, on pourra en discuter après, mais ne serait-ce simplement que ne pas mettre à jour son parc ou d'utiliser par défaut des comptes avec des privilèges trop élevés, c'est déjà le premier point d'entrée, finalement, pour faire un début de menaces persistantes. En fait.
C'est ce qu'on voit, c'est que 76% ça vient de la compromission des crédits d'un utilisateur, qui peut être un point d'entrée qu'on a vu très très fréquent, ça peut être un fichier PDF qui est envoyé à un utilisateur bien déterminé, ce qu'on appelle du spear phishing. Le fichier PDF il est bien crafté, on sait que les entreprises ne mettent pas forcément à jour tous les lecteurs PDF, on exploite une vieille faille, pour peu que l'utilisateur ait quelques privilèges sur l'organisation, souvent les VIPs aiment bien avoir tous les privilèges en plus.
Bien sûr. Donc
on a comme ça une escalade, et puis on a effectivement ces conséquences qui sont des pertes financière et puis des pertes de propriété intellectuelle assez massives.
Exactement. Autre déroulé, effectivement, l'envoi d'un mail avec un lien qui va envoyer sur un site web qui contient une vulnérabilité liée au navigateur, par exemple. Donc il y a un code qui est installé sur le poste client, qui génère un problème. L'utilisateur appelle son IT, l'IT arrive, c'est sur son cheval blanc. Il sort ses plus belles mimines et se log sur le PC avec son compte administrateur. Parce qu'on ne peut pas changer de nom, on va garder le SID 500, le premier compte créé, celui à l'origine de tout. Et il se log en administrateur avec les privilèges et le code malveillant enregistre le login et le mot de passe. À partir de là, la diffusion dans le système d'information peut se faire avec des informations officielles, c'est-à-dire utiliser les comptes utilisateurs, administrateurs, utiliser les mécanismes standards, que ce soit PowerShell, les logiciels de distribution, etc. Donc une fois que finalement on a récupéré un niveau de privilège suffisant, bah, c'est assez simple de se répartir et de distribuer entre guillemets les différents points de collecte d'informations. Donc c'est une information, ça n'a rien de techniquement très avancé. Alors on appelle ça de l'advanced persistent threat, donc menace avancée persistante. La plupart du temps, en fait, c'est pas réellement avancé. C'est une utilisation de facteurs humains dans un premier temps, la plupart du temps, ou simplement de points d'entrée qui n'ont pas été sécurisés parce que pas mis à jour ou autre. Mm-hmm. Et puis après, bah, simplement des utilisations d'outils, des fois même des outils officiels ou des outils proposés même par l'éditeur pour pouvoir administrer simplement son.
Voilà, c'est un des points de base des attaques actuelles et qui font que c'est très difficile à détecter, c'est que bah, on va utiliser, les pirates vont utiliser des outils comme PSExec ou des choses très très classiques pour exploiter des systèmes, parce que c'est des outils d'administration légitime qui donc vont passer complètement en dessous du radar des outils de détection.
Exactement, donc toutes les sondes IDS, IPS, etc., elles vont voir des actions légitimes, enfin qui ne sont pas remontées comme des patterns particuliers. Donc c'est pas des... le but n'est pas d'utiliser des outils qui sont déjà réputés pour être des outils d'attaquants ou des outils de pénétration, etc. Mais c'est vraiment d'utiliser les outils d'administration standard et donc du coup effectivement de pouvoir s'incruster comme ça et rester des fois très longtemps dans un système d'information. Or, avoir une vue très globale de ce qui se passe au niveau d'un système d'information, je pense que quasiment aucune organisation n'a réellement une vue très globale, très synthétique, capable de dire en instant T, j'ai tel utilisateur qui s'est logué depuis tel point du monde, il a fait telle action sur tel serveur, etc. C'est très rare d'arriver à collecter toute l'information, d'arriver à la traiter, entre guillemets, et après d'en ressentir vraiment ce qui est pertinent. L'important, c'est la pertinence, que si on collecte tout, en fait, trop d'informations tue l'information, c'est un vieil adage et qui est tellement vrai dans les systèmes d'information, que voilà. Donc, après, les chiffres de 500 milliards de coûts estimés de la cybercriminalité, ou le coût moyen de vue à son données, honnêtement, c'est des chiffres comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose. Ils nous ont été donnés gentiment par l'équipe produit. Mais en gros, c'est, bah, ça dépend, mais ça peut coûter vraiment de l'argent. Et quand on est ici des vraies problématiques d'espionnage étatique ou industriel, on se doute bien que les chiffres sont bien plus importants que ce qu'on peut voir ici.
C'est malheureusement clair. Alors, on l'a dit, hein, ces attaques typiques, actuelles, des outils informatiques classiques, en passant par un premier vecteur qui est l'utilisateur lambda de l'organisation, beaucoup de temps à être détecté, et puis on va utiliser aussi des failles du système d'information. Alors, typiquement, un des vecteurs qu'on va utiliser pas mal, c'est par exemple ce qu'on appelle l'utilisation de traversée latérale, c'est-à-dire le compte mot de passe admin qui est le même sur tous les postes de l'organisation. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les grosses organisations. Ou pareil, sur tous les serveurs, le compte admin local qui est exactement le même. Du coup, ça, c'est une faille qui est exploitée. Et on a des outils, je crois, pour ça, hein, Stanislas.
Exactement. Donc, il y a des outils comme PassTheHash, par exemple. Alors, des outils comme Mimikatz qui permettent d'exploiter du PassTheHash, notamment, si c'était ça que tu pensais dans un premier temps. Mimikatz, d'ailleurs, qui a été fait par un Français.
Cocorico.
Qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui est très, très sympa. Et donc, voilà, les outils existent, ils ne sont pas réellement difficiles à exploiter. Les points d'entrée sont multiples parce que l'utilisateur, par définition, est faillible par la curiosité, par plein de choses. Et puis, les outils de surveillance ne sont honnêtement pas adaptés à des grandes masses de volumétrie et de traitement. Donc, ça veut dire que, globalement, ce genre d'attaque va continuer à exister. Parce que finalement, elles sont simples à faire. Elles sont simples et elles rapportent beaucoup. Donc là, on est dans une bonne adéquation, entre guillemets, pour des organisations malveillantes, parce que potentiellement, il y a beaucoup d'argent à faire, avec peu d'efforts, et avec des résultats qui sont quasiment certains à chaque fois.
D'où le marché qu'on a vu se développer. Donc, effectivement, le problème avec les solutions classiques de sécurité, c'est que, ben, on l'a dit, hein, les attaques, la plupart du temps, elles ont été découvertes après des mois et des mois, quand par hasard quelqu'un a bien voulu aller regarder dans le log du firewall, de dire tiens, c'est bizarre, il y a des choses qui s'écoulent tout doucement, du trafic qui s'écoule tout doucement vers telle et telle destination. On croit bien, ce n'est pas un firewall qui va nous aider à détecter un problème de pattern où on a des utilisateurs qui vont se loguer à un moment donné sur une machine et puis à un autre moment donné, le compte a été compromis, il va se loguer sur plein de machines pour aller récolter de l'information. Donc là, les outils classiques de type firewall, c'est pas du tout, ça ne nous aide pas du tout. Ce qui pourrait nous aider, c'est l'analyse des journaux d'événements de sécurité sur les machines et sur les serveurs de l'organisation. Simplement, pour avoir vu beaucoup de très grosses organisations dans mes vies précédentes, assez peu de gens ont un système, un SIEM qui est avancé, qui permet de faire du reporting en temps réel de ce qui est en train de se passer sur l'activité en matière de sécurité. J'ai eu une fois un client, j'étais auditeur de sécurité pour les clients premiers Microsoft pendant de nombreuses années.
Quand tu étais jeune.
Quand j'étais un petit peu plus jeune. Et j'ai eu une fois, pendant que je faisais un audit de sécurité, une fois, un client qui est venu me dire « Tiens, j'ai regardé sur mon système de monitoring là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur tel et tel serveur ?» Ça m'est arrivé une fois en 7 ans d'audit de sécurité.
Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, le problème aussi, il est dans la complexité des organisations. C'est-à-dire que plus l'organisation est grande, plus on va avoir ce système de silos qui sera que bah, y a les gens responsables du réseau, il y a les gens responsables des bases de données, il y a les gens responsables de l'Active Directory, il y a les gens responsables des machines, il y a les gens responsables des postes de travail. Mm. Et tout ça, en fait, ça ne communique pas forcément parce que, bah, de toute façon, voilà, grosse organisation, hiérarchie traditionnelle, et puis pas forcément les choix d'outils faits par les équipes et qui ne sont pas globalisés après.
Et qui ne sont pas intégrés. Et puis l'équipe sécurité qui ne discute pas avec l'équipe réseau, et l'équipe réseau qui ne discute pas avec l'équipe Microsoft, parce que oh, la sécurité, bon, ce n'est pas Microsoft, oh là là, il ne faudrait pas qu'on discute ensemble. Donc, ce manque de communication aussi aide pas dans ce genre de problématiques à résoudre.
Aide pas, et du coup, quand on n'a pas cette fameuse vision où on prend un petit peu de hauteur en disant ben, « j'ai plein de données et je les traite après pour voir ce qui se passe », eh ben, on ne peut pas avoir de résultat. Donc, reprends l'exemple, tu as simplement une solution de VPN, par exemple, ou de VPN SSL. Mettons que tu es un utilisateur qui se connecte plusieurs fois, il se connecte des fois depuis la Chine, des fois depuis le Brésil, etc. Et ça, en quelques minutes d'affilée. Je veux dire, techniquement, si les credentials sont, enfin, si les informations données sont bonnes et si le pare-feu ou l'équipement de VPN n'a pas un traitement, une alerte spécialement s'il y a des connexions rapides qui viennent de différents endroits dans le monde, logiquement, personne ne s'en apercevoir. Et après, effectivement, si on a des utilisateurs genre Roger de la Conta qui se met à scanner de manière massive l'ensemble des serveurs qui contiennent les applications des RH, là encore, à la limite, pour peu qu'il ait des droits d'accès dessus, ou qu'on n'ait pas en fait un système qui dit ben, quand j'ai 10 alertes rouges sur le service, le serveur qui est dans les RH, parce qu'il y a eu des erreurs de connexion, je remonte quelque chose, ben, ça peut se passer pendant des années, ça en fait. Et ben, on ne voit jamais rien. Mmh.
Donc on l'a bien saisi, ce problème n'est pas simple du tout à résoudre avec les outils actuels.
Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est là en fait qu'on va intervenir et qu'on va proposer peut-être un début de piste. Ce ne sera pas une solution magique, mais ce sera déjà un début, qui s'appelle donc Microsoft Advanced Threats Analytics, issu d'un rachat dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et on va voir ça dans le prochain module.